France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ce n'était pas drôle tous les jours d'être un fils ou une fille d'Œdipe. Quelle famille! Ces gens ne respectaient rien. Imaginez, votre père, Œdipe, s'est crevé les deux yeux avec ses propres mains. Il venait de découvrir des choses horribles. Il venait d'apprendre qu'au cours de sa jeunesse, il avait tué son père sans le savoir, puis qu'il avait épousé sa mère, toujours sans le savoir. Il lui avait fait des enfants. Donc, si vous étiez fils ou fille d'Œdipe, vous étiez les frères et les sœurs de votre père, puisque sa mère à lui était aussi la vôtre. Mais ça, pendant longtemps, personne ne le savait, tout paraissait normal.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Un jour, brutalement, tout s'est révélé, l'illusion a cessé. Votre père a appris que le vieil homme qui l'a tué lors d'un banal mais très violent incident de la route était en fait son père, ce qu'il ne savait pas. Le même jour, il comprend que sa femme adorée était en fait sa mère. C'est un dieu qui a combiné tout cela, ses crimes, le parricide, l'inceste avec sa mère, et la révélation brutale de ses crimes. Ce dieu est le dieu Apollon, dieu de la lumière, de la parole vraie, qui donne des oracles obscurs mais infaillibles dans son temple de Delphes. C'est aussi un dieu de la cruauté, de la vérité qui tue. Apollon avait dit à un dénommé Laios, roi de la ville sacrée de Thèbes, que s'il faisait un enfant, cet enfant le tuerait. Laios était averti, mais il n'a pas pu s'empêcher de faire un enfant à sa femme Jocaste. L'enfant naît. Les parents prennent peur et décident de le tuer. Ils le confient à un berger pour qu'il le livre aux bêtes sauvages dans la montagne. Mais le berger a pitié du petit et le confie à un autre berger, qui emporte l'enfant dans une autre ville où il sera élevé. Il s'appellera Œdipe. Le dieu Apollon ne lâche pas prise. Il s'arrange pour que le jeune Œdipe retourne vers sa ville natale, la ville de Thèbes. Sur le chemin, Œdipe tue Laios, son père. Il s'approche de Thèbes et rencontre la Sphinge, ce monstre ailé qui tuait les jeunes habitants de Thèbes s'il ne savait pas résoudre son énigme. Œdipe trouve la solution de l'énigme, supprime la Sphinge. Il est accueilli en triomphateur et épouse la reine de Thèbes, Jocaste. Tout le monde ignore que c'est sa mère. Œdipe devient roi de la ville à la place de son père, qui l'a tué. Œdipe et Jocaste ont 4 enfants. 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Tout a l'air de bien se passer. Mais comment une telle famille pourrait continuer à vivre? Même si elle ne le sait pas encore, elle repose sur la violence d'un parricide. Elle mélange les générations. Elle confond les rôles de fils et d'époux. Elle ne reconnaît pas le tabou de l'inceste. Cette famille, à la fois déchirée et hyper-fusionnelle, est condamnée. Elle va exploser. Elle va déboucher sur l'autodestruction. Les 2 fils d'Œdipe et de Jocaste, Éthéocle et Polynice, des fils d'abord chéris, vont être maudits par leur père, vont se haïr et finir par se tuer l'un l'autre dans une immense guerre. Nous suivrons les étapes de cette querelle sans merci. Le dieu Apollon, comme d'habitude, est maître du jeu. Apollon s'arrange pour que de longues années après son mariage glorieux avec Jocaste, Œdipe découvre la vérité. À l'heure même où cette vérité éclate, il se crève les 2 yeux, ses yeux qui n'auraient jamais dû voir ce qu'ils ont vu. Œdipe vit alors enfermé dans son palais, comme une épave, un parasite. Il est une aberration impressionnante, porteuse de monstruosité, mais Œdipe est sacré, tellement il est criminel. Les dieux l'ont tellement tourmenté qu'il est aux yeux de tout le monde habité d'une force divine. Il est intouchable. Dépossédé de tout, confiné dans le palais royal, Œdipe reste toujours le même, irascible, autoritaire. Ses fils ont grandi. Ils doivent prendre soin de lui, mais ils ne savent pas comment le gérer. Ils veulent lui plaire, mais sans le vouloir, ils vont provoquer chez leur père une immense colère. un vieux poème que les Grecs anciens ont longtemps attribué à Homère, l'épopée appelée la Thébaïde, dont nous ne pouvons lire aujourd'hui que quelques fragments, nous raconte comment Œdipe savait s'énerver et comment ses colères ont déclenché la ruine de toute sa famille. Un jour, raconte ce poème, l'aîné des fils d'Œdipe, Polynice, croit sans doute faire plaisir à son père en lui servant un repas somptueux. Il a rassemblé pour cela des trésors de famille, d'un très grand luxe, une table en argent et une coupe en or.
Mais le blond Polynice, héros de naissance divine, d'abord dressa devant Œdipe une belle table, toute d'argent. Elle avait appartenu à Cadmos, homme à la pensée divine. Ensuite, il emplit une coupe toute d'or d'un vin délicieux.
Cadmos, l'homme à la pensée divine, est un ancêtre d'Œdipe. Il est le héros qui a fondé la ville de Thèbes. Cadmos est très fameux. Il a fait naître sa ville à partir de son sol, de sa terre, en semant dans ce sol les dents d'un affreux dragon qui gardait cette terre et que Cadmos a tué. De ces dents semées dans la terre sont nés des guerriers tout armés. Ils se sont dès leur naissance rués les uns contre les autres. 5 guerriers ont survécu. Ce sont les premiers Thébains. Œdipe est un descendant direct de Cadmos. Œdipe, peut-on imaginer, mais ce n'est pas sûr, mange à part, reclus. Lui servir son repas dans ses objets de très grande valeur, des objets qui étaient dans la famille depuis longtemps, c'est peut-être vouloir consoler Œdipe, lui rappeler qu'il appartient à la lignée glorieuse des rois de Thèbes, lignée fondée par Cadmos. L'intention de son fils Polynice était peut-être bonne. Mais cette table et cette coupe mettent en rage Œdipe l'irascible. Il faut dire que ces objets avaient été la possession de son père Laios, ce père qu'il a massacré autrefois, sans le savoir. Un auteur ancien nous dit qu'Œdipe avait interdit qu'on le serve avec ces objets qui lui rappelaient son crime. Œdipe serait furieux d'avoir été désobéi par son fils.
Mais quand Œdipe se rendit compte qu'il avait devant lui les trésors prestigieux de son père Laios, un grand malheur s'abattit sur son cœur. Contre l'un et l'autre de ses fils, tout de suite, il proféra de douloureuses malédictions. Elles n'échappèrent pas à la divine Érinie. Ses fils ne se partageraient pas l'héritage avec amitié. Entre deux, il y aurait toujours guerres et combats.
Les deux fils, Polynice et son frère Étéocle, que Œdipe met dans le même panier, sont maudits à jamais. Ils ne s'entendront jamais. L'Érinie, la déesse nocturne sombre, à la chevelure hérissée de serpents, a une très bonne mémoire. Elle n'oublie pas les malédictions. Elle s'en empare et veille à ce qu'elle se réalise. C'est bien ce qui va arriver. Les frères se feront la guerre.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe. We'll be right back.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Éthéocle et de Polynice, les fils d'Œdipe.
Dans le poème La Thébaïde, Œdipe se met en colère une seconde fois. Cette fois, il appelle sur ses deux fils non plus seulement la guerre, mais la mort, qu'ils se donneront l'un à l'autre. Encore une histoire de repas qui tourne mal. Les deux fils, Polynice et Éthéocle, avaient pris l'habitude de servir à leur père la meilleure part du mouton qu'ils sacrifiaient, l'épaule. Or, un jour, ils oublient. Ils croient trouver une solution en servant à leur père un autre morceau du mouton, la hanche, morceau nettement moins noble. Selon un autre poème, il se serait dit « De toute manière, il est aveugle. Il n'y verra que du feu. » Mais Œdipe est lucide et se met en colère. Il maudit à nouveau ses fils.
Quand il reconnut la hanche, il la jeta par terre et dit
« Oh, mon malheur, c'est un grand affront ce que m'envoient mes fils. »
Il pria et demanda à Zeus, roi, et aux autres immortels que sous les coups de l'un et de l'autre, ses fils descendent dans l'invisible.
Œdipe condamne ses fils, Éthéocle et Polynice, à s'entretuer. Ils vont revivre ce qu'ont vécu les tout premiers Thébains, ces guerriers qui sont nés des dents du dragon que Cadmos avait semé dans la terre de Thèbes. À peine sortis du sol, ils se sont massacrés les uns les autres. L'histoire se répète. Tout cela pour une question de nourriture. Mais la question était grave, vu ce qu'est cette famille. Rien ne pouvait s'y passer normalement. Des fils doivent nourrir leur vieux père. C'est la règle. Mais cela suppose que la famille soit normale, que les générations se succèdent normalement. Avec Œdipe, ce n'est pas le cas. Les fils d'Œdipe n'arrivent pas à honorer leur père comme il faut. Il faut dire que c'était difficile. Ils étaient pris dans un « double bind », dans une double contrainte, contradictoire. Quoi qu'ils fassent, ils avaient tort. Ou bien ils honorent trop Œdipe, avec des objets précieux qui rappellent la glorieuse histoire de sa famille royale. Et du coup, ils rappellent à Œdipe qu'il est un roi déchu, indigne et criminel. Ou bien, par simple erreur, comme cela peut arriver à tout le monde, il l'honore moins que ne le mériterait un père royal. Et Œdipe se fâche. De toutes les manières, ils sont à côté de la plaque. Œdipe, des faits exclus, continue à être tyrannique. Que la faute de ses fils soit voulue ou non, qu'ils aient fait exprès ou pas exprès d'humilier leur père, cela ne comptait pas beaucoup en Grèce ancienne. Ce qui comptait était le fait, avéré, de l'humiliation. Œdipe constatait qu'il n'était pas honoré comme il le faut. Il se croit autorisé à condamner ses fils à la destruction. Les fils, visiblement, prennent peur. Ils font tout pour éviter le malheur dont Œdipe les menace, l'un et l'autre. Ils prennent la décision de se séparer. L'un doit s'exiler, abandonner Thèbes. À ce moment de l'histoire, on est devant plein de possibilités. Les poètes, les érudits ont multiplié les versions. Elles ne sont pas d'accord entre elles, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Pour nous, c'est tant mieux. Cela veut dire que cette histoire d'Éthéocle et de Polynice, de leur querelle, puis de leur guerre meurtrière, inspirait beaucoup les Grecs. Ils y mettaient beaucoup de sens. Comment une telle catastrophe est-elle possible? Les poètes cherchaient à comprendre. Pour cela, ils ont multiplié les scénarios. Et parfois, une bonne surprise peut arriver. Une découverte tout à fait inattendue. Il peut arriver qu'un texte inconnu surgisse du néant et donne un éclairage tout à fait nouveau sur cet événement mythique, capital pour les anciens. Une telle surprise si heureuse a eu lieu en 1974. Un texte poétique grec ancien, totalement inconnu, a été découvert dans une momie égyptienne. Cela n'a pas eu lieu en Égypte, mais dans le nord de la France, à Lille, dans des collections égyptiennes entreposées depuis longtemps à l'université. On savait que pour façonner les masques des momies, des artisans récupéraient des papyrus, matières précieuses, dans les corbeilles des écoles. On savait que ces lambeaux de papyrus pouvaient contenir des textes inconnus, et donc des textes grecs, pendant la période grecque de l'Égypte ancienne, après Alexandre le Grand. Si on prend la décision de sacrifier le masque de la momie, de le chauffer à la vapeur, de manière à décoller les couches de papyrus, on peut être heureux et découvrir un trésor. C'est ce qui a eu lieu à Lille en 1974. Sur des lambeaux de papyrus datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, sont apparus les restes d'un poème, dont un peu plus d'une trentaine de vers sont presque intacts, très lisibles, comme on lit le journal, à quelques passages près. Pour les hellénistes, c'est un cadeau des dieux, une joie immense. La langue, le style, la forme de ce texte font penser à la poésie d'un poète connu, le poète sicilien Stésichore, qui a vécu au VIe siècle avant notre ère. Le poème est anonyme, n'est pas signé, mais il y a accord entre les interprètes pour l'attribuer à ce Stésichore. Ce poète était très célèbre en Grèce. Il reprenait les histoires mythiques des épopées pour en faire des spectacles chantés et dansés. Son nom, qui était un nom d'artiste, Stésichoros, signifie « qui met en place des danses ». Ce poème nouveau, pour nous, est passionnant. Il concerne directement notre histoire. Le papyrus contient un discours très argumenté de la reine Jocaste. Dans cette version du mythe, Jocaste, l'épouse et mère d'Œdipe, n'est pas morte. Elle ne s'est pas tuée en apprenant qu'elle avait épousé son fils. Elle a survécu. Et elle voit la querelle qui commence à naître entre ses deux fils, Éthéocle et Polynice. Œdipe, sans doute, est mort. Il faut se partager l'héritage. Jocaste a peur, car le vieux Tirésias, ce devin aveugle que nous avons déjà rencontré, a prédit que cette querelle des deux frères tournerait très mal. Jocaste s'insurge vigoureusement, elle réplique. Elle demande à Tirésias de ne pas multiplier les sujets d'angoisse. La famille a connu assez de douleurs par le passé.
En plus des douleurs, ne crée pas de durs soucis. Et pour l'avenir, ne m'annonce pas de pesantes angoisses.
Puis, selon le texte du papyrus, Jocaste essaye de montrer que l'issue désastreuse qu'annonce le devin est en fait improbable. Elle propose une solution. D'abord, Jocaste tente de prouver que les sombres prédictions de Tirésias reposent sur une idée fausse de ce que vivent les humains. Il est improbable, dit-elle, que la haine, la discorde violente qui a tellement assombri l'histoire de la famille, dure toujours. L'esprit des humains est instable. Il n'arrête pas de changer. C'est comme ça que les dieux façonnent la vie des mortels.
Car il est faux de dire que toujours semblablement, les dieux immortels aient établi sur la terre sacrée une haine immuable pour les mortels, ni même un amour immuable. Au jour le jour, les dieux font changer l'esprit des hommes. Tes prédictions, Tirésias, que le Seigneur Apollon qui œuvre de loin ne les réalise pas toutes.
La vie des humains est une alternance de haine et d'amour. La haine ne peut pas durer éternellement. Jocaste, toujours selon le papyrus, propose alors une solution concrète pour résoudre la question de l'héritage des deux frères. Ils sont deux et doivent partager un héritage qui n'appartenait qu'à un seul, Œdipe. Pour que la haine naissante entre les deux frères s'arrête et pour que la famille en finisse avec le malheur, il suffit, dit Jocaste, de couper l'héritage en deux. D'un côté, le pouvoir politique, de l'autre, les richesses. Un fils régnera sur Thèbes. L'autre partira de Thèbes avec les trésors qui appartiennent à la famille. Un tirage au sort, c'est-à-dire en fait les dieux, décidera de qui aura quelle part.
Allez mes fils, enfants chéris, obéissez à mes paroles, car je vous révèle ici la solution. Que l'un, maître de la maison, habite près des prairies qui bordent notre fleuve. Que l'autre s'en aille, en maître des biens et de tout l'or de son père. Quel que soit le premier, par le sort a tiré son lot par décision des moires. Car cela, je le pense, peut vous délivrer d'un mauvais destin.
La femme divine dit ces douces paroles. Elle arrêtait la querelle des fils dans le palais.
Là s'arrête malheureusement la partie lisible du papyrus. Pour la suite de l'histoire, on doit faire des suppositions et s'appuyer sur ce que disent des sources déjà connues, mais on est dans le vague. Les deux fils, semble-t-il, acceptent l'idée de leur mère Jocaste. Après un tirage au sort, Éthéocle reste à Thèbes et devient le roi de la ville. Polynice s'en va avec l'or de la famille. Sans doute emporte-t-il le fameux collier d'or que la déesse Harmonie avait reçu en cadeau lors de son mariage avec Cadmos. Ce collier avait été offert à Harmonie ou par Zeus, ou par Aphrodite, ou par Athéna, ou encore par Héphaïstos, qui l'aurait fabriqué, c'est en dire la valeur.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
exactly why. Winter came, made it so. Look alive, underneath the grass would grow, aiming at the sky.
Pierre-Judé de la Combe parle d'Éthéocle et de Polynice, les frères ennemis.
Polynice quitte sa ville natale, va vers le sud dans le Péloponnèse, dans la ville d'Argos. Il y épouse la fille du roi. Puis, la querelle des deux frères repart, le pacte est rompu. La haine s'impose à nouveau après un bref moment d'amitié et d'entente entre les frères. On ne sait pas du tout pourquoi ni comment. On n'en a aucune idée. Les poètes les fabricants de mythes, ont inventé des histoires qui expliquent cette permanence de la haine, du désastre dans la famille. Ainsi, on a pu dire qu'il n'y avait pas eu d'accord du tout entre les deux fils d'Oedipe, mais que Étéocle avait tout simplement chassé son frère Polynice, l'avait condamné à l'exil. Polynice était dans cette version clairement victime d'une injustice. Ou alors, on a dit que les deux frères s'étaient mis d'accord pour régner alternativement sur Thèbes, chacun pendant un an. Mais Étéocle, après son année de règne, aurait refusé de laisser la place à son frère Polynice. Toujours est-il que Polynice, dans ses versions, s'estime lésé, injustement dépossédé. Il va revendiquer contre son frère le pouvoir sur Thèbes. En cela, il est bien conforme au sens de son nom. Polynice, en grec polu naikes, veut dire l'homme des nombreuses polu, querelle naikos. Une guerre énorme va se déclencher. Elle rassemblera contre Thèbes une grande partie de la jeunesse grecque, ses héros les plus remarquables. Cette guerre sera fameuse, chantée. Ces héros auront droit à des monuments très connus à Argos et à Delphes, des statues de bronze que réaliseront des artistes célèbres. Mais cette guerre de Polynice sera un échec total. Tous les chefs partis attaquer la ville de Thèbes seront massacrés, sans exception. Du côté de Thèbes, il n'y aura qu'une perte majeure. La mort du roi Étéocle, tué par son propre frère Polynice, dans un duel où les deux frères vont se massacrer l'un l'autre.
Est-ce que dans ce sens, le duel, fratricide en l'occurrence, serait un stade ultime de la guerre?
Oui, je pense que c'est un aspect de la guerre qui est souligné là, dans le duel, que ce sont des frères qui se battent.
Mayotte Bollack, philosophe.
Ce n'est pas deux étrangers qui se mesurent l'un à l'autre, mais deux frères. Que la guerre, dans ce sens, est encore plus horrible qu'on ne l'a fait.
Donc il ne s'agit pas seulement de combattre l'altérité.
Il ne s'agit pas du tout de combattre pour repousser un ennemi, se défendre dans une guerre juste. On voit bien se dégager cette idée que la guerre est toujours une guerre entre des hommes, entre des hommes frères.
Polynice rassemble une armée de 7 grands héros, 7 chefs, lui et 6 autres, de manière à s'opposer frontalement aux 7 portes du rempart grandiose de Thèbes. L'armée des 7 héros avance. Ils prennent position dans la plaine, autour de la ville. Cette guerre légendaire, avec l'assaut final des 7 chefs contre Thèbes, avec leur défaite, est au cœur d'une somptueuse tragédie d'Eschyle, les 7 contre Thèbes, jouée à Athènes en l'an 467 avant Jésus-Christ. Cette pièce de guerre invite les spectateurs à faire l'expérience par la fiction, par la puissance du jeu théâtral, de ce que sont les situations extrêmes de la guerre, de la violence et du deuil, tant du côté des assiégés que du côté des assaillants. Les Athéniens, avec cette pièce, font l'expérience directe de ce qu'est une guerre civile entre deux chefs qui prétendent avoir la même légitimité. Comme souvent, la pièce commence au petit matin. Un espion a été envoyé par le roi Étéocle pour surveiller les 7 chefs ennemis pendant la nuit. Le jour se lève. L'espion raconte au roi et aux citoyens de Thèbes rassemblés sur l'acropole de la ville ce qu'il a vu. 7 chefs fermement décidés à saccager Thèbes ou à mourir.
7 hommes, 7 capitaines fous de guerre, égorgeurs d'un taureau sur un bouclier aux noires ligatures, touchaient le flot de son sang avec leurs mains. Par Arès, par Ennio et Effroi qui aiment le sang, ils prêtèrent le serment de fracasser notre cité et de vider par la force la ville des Cadméens, ou bien par leur mort d'irriguer la terre du flot de leur sang. En mémoire d'eux-mêmes, à destination des parents à la maison, ils nouaient de leurs mains des guirlandes et versaient des larmes, mais aucune plainte ne passait par leur bouche, car soufflait en eux l'ardeur d'un esprit de fer, lumineux de courage, comme chez les lions aux yeux pleins d'Arès.
L'assaut commence dès le lever du jour. Les chars ennemis, les fantassins se sont mis en mouvement pour l'action décisive. La poussière qu'ils lèvent dans la plaine se voit depuis l'intérieur de la ville. Un bruit immense de chars, de chevaux, de pierres lancées envahit la ville. Les femmes de Thèbes sont effrayées. Elles en appellent aux dieux pour qu'ils sauvent leur vieille cité légendaire.
Je crie sur des grandes souffrances qui font peur. L'armée est lâchée. Elle a quitté ses quartiers de guerre. Un peuple de cavaliers avant-coureurs afflue en masse. La poussière du ciel, visible, me le prouve. Messagère sans voix, claire, véridique. Angoisse, angoisse, dieux et déesses, écartez le mal qui monte. Le mal crie au-dessus des murs. J'entends autour de la ville le grondement des chars. Ô Héra souveraine, les écrous des essieux ont hurlé. Artémis bien-aimée, l'azur entre en délire secoué par les lances. Qu'arrive-t-il à ma ville? Que va-t-elle devenir? Vers où le dieu va-t-il mener la fin? De loin, des pierres en rafale frappent les bastions. Ô Apollon bien-aimé, vacarme près des portes, des boucliers aux ligatures de bronze.
Ces femmes savent très bien ce que signifierait pour elles, pour les enfants, pour toutes les Thébaines et tous les Thébains, une mise à sac de la ville. Ce serait un viol, une éventration de tout, guerriers, enfants, maisons, jeunes filles. Elles ont une idée très précise de ce qui arriverait si la ville était prise.
Des cris de corbeaux courent dans la ville, un carcan lancère, haut comme une tour. Un homme est couché par la lance d'un homme, lourd de sang. Les braillements des bébés au sein grondent à peine rassasiés. Débutantes dans le malheur, les jeunes filles, tristes pour leur sexe gagné à la guerre par un homme chanceux, car elles craignent que face à un ennemi plus fort, la tempête nocturne d'une consommation ne vienne renforcer des douleurs toutes de larmes.
Éthéocle le roi doit écarter le danger et surtout ne pas céder à la panique. Il arrive à se faire une idée très claire de ce que prépare l'ennemi grâce au rapport que lui fait un observateur méticuleux, très précis. Cet observateur lui décrit les 7 grands héros ennemis qui se sont postés devant les 7 portes de la ville. Le tableau est saisissant, baroque, exubérant. Ces héros sont grandioses, magnifiques et effrayants par leurs armures, leurs chevaux, leurs boucliers, leurs cris, leurs menaces. Ils mobilisent tout un patrimoine de mythes, d'images, de mots pour effrayer les habitants de Thèbes. À la première porte, le premier attaquant, Tidée, hurle à pleine voix, impatient de se battre. Des cloches accrochées à son bouclier font sonner un bruit de terreur. Sur son bouclier, il a représenté une lune pleine, brillante, qui resplendit au milieu des astres. Il ne se prend pas pour rien.
En hurlant à la guerre, Tidée secoue 3 panaches d'ombre, la chevelure de son casque. Sous son bouclier, des cloches forgées dans le bronze sonnent l'effroi. Il tient sur le bouclier un signe qui dépasse le bon sens, l'image d'un ciel qu'embrasent les astres avec, flamboyante au milieu de l'écu, une pleine lune, le plus noble des astres, spectaculaire œil de la nuit. Gesticulant dans son équipage d'orgueil, il crie près des rives du fleuve, par désir du combat, pareil à un cheval qui renacle avec rage contre son mort et s'agite immobile en attendant le cri du buccin.
Que faire contre un tel déchaînement de bruit, de mots devant cette image si prétentieuse? Le roi Éthéocle prend ce monstre d'homme avec un certain humour. « Bah, se dit-il, somme toute, ce qu'il a mis sur son bouclier avec sa lune, c'est une nuit. Et ça pourrait bien être la nuit qui va s'abattre sur son œil quand il mourra. » Éthéocle ne se frappe pas plus que cela. Et de fait, ce Tidée sera vaincu, tué. Mais il aura fait des siennes, nous dit une autre tradition poétique ancienne. Pendant la bataille, on lui apporte le cadavre d'un Thébain. Tidée prend sa tête, l'ouvre et avale le cerveau. La déesse Athéna voulait accorder l'immortalité à Tidée, son héros chéri, mais elle est tellement écœurée qu'elle renonce. Tidée va mourir. À la deuxième porte, le deuxième attaquant exhibe sur son bouclier un guerrier nu, qui tient une torche et qui prétend incendier la ville. Eh bien, à feu, feu ennemi, Zeus, comme le prévoit et le souhaite Éthéocle, le brûlera avec sa foudre. Le troisième est inquiétant en un autre sens, car il s'appelle Éthéoclos, presque un homonyme d'Éthéocle, Éthéoclès. Cela veut dire qu'il n'y a pas une grande différence entre les attaquants et les défenseurs. Par le nom, Éthéocle a son double ou presque parmi les ennemis. À la quatrième porte, le quatrième guerrier est terrible. Il a sur son bouclier une image très travaillée et effrayante. L'artisan a été habile. Il a forgé une image du monstre Typhée qui crache du feu. Le messager en est encore tout bouleversé.
Quand j'ai vu le cercle immense de son bouclier, qui tournoyait à sa main, j'ai frissonné, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas un médiocre fabricant d'emblèmes qui trouva le moyen d'ajouter au bouclier cet ouvrage. Un Typhée qui souffle le feu par sa bouche. Il crache une fumée noire. Cette sœur versa-t-il du feu? Depuis le bord, Des tresses de serpents soutiennent la rondeur cave de ce cercle, au ventre creusé. L'homme hurle son triomphe. Enivré d'Arès, il délire comme une bacchante, la terreur dans les yeux.
Typhée est un monstre abominable que Zeus, autrefois, a eu un mal fou à vaincre. Il y est finalement arrivé en le foudroyant. On peut se demander pourquoi un guerrier peut brandir l'image d'un monstre dont tout le monde sait qu'il a été vaincu. Et justement, c'est pour faire peur. On se croyait délivré à jamais de ce monstre ancien, mais non. Il peut ressurgir à tout moment avec toute sa force. Manque de chance pour ce guerrier agressif, le défenseur de la ville qui a été choisi pour défendre cette porte tient sur son bouclier exactement l'image qu'il faut. Un Zeus, bien assis, qui brandit sa foudre. Le vieux combat mythique entre Typhée et Zeus va donc recommencer par bouclier interposé. Il y a toutes les chances que Zeus gagne à nouveau. Ce sera le cas. Le cinquième guerrier est un très jeune homme, très beau, Parthénopée, l'enfant vierge. Il vient du pays sauvage et couvert de forêts qu'est l'Arcadie. Il porte sur son bouclier l'image d'une sphinge qui tient dans ses griffes un guerrier thébain. Cette image est bien visible, elle est en relief. Le message est clair. Vous croyez que Dipe vous a libéré de la sphinge? Eh bien non, elle revient et continuera à vous détruire. Et Théocle ne se démonte pas. Cette sphinge en relief sera, dit-il, tellement cabossée par les coups qu'elle va recevoir qu'elle se retournera contre le guerrier qui la porte. À la sixième porte, le sixième guerrier est très émouvant. C'est le devin Amphiaraos. Ce devin clairvoyant savait depuis le début que la campagne guerrière menée par Polynice était vouée à l'échec. Il savait que les sept chefs allaient mourir, lui compris. Mais il était contraint d'y prendre part. Il avait juré qu'il suivrait toujours la vie de son épouse, Eriphile. Or, Polynice a souillé cette épouse. Pour qu'elle oblige le devin à se joindre à son armée, il lui a offert le fameux collier qu'Harmonie avait reçu de la part des dieux lors de ses noces avec Cadmos. Amphiaraos est lié par son serment. Il est donc obligé de prendre les armes et de partir à la mort. Il a quand même, avant de partir, le temps de demander à son fils Alcméon de le venger. Ce fils tuera sa mère Eriphile. On faisait comme ça à l'époque. Amphiaraos, homme avisé, et trop conscient de l'issue de la guerre, se refuse à faire le vantard, comme les autres chefs. Il n'exhibe aucune image sur son bouclier. Son bouclier est vide, blanc. Et pourtant, il sait qu'il devra se battre. Zeus emploiera la foudre contre lui, non pas pour le brûler, mais pour ouvrir un gouffre dans la terre devant ses chevaux et son char. Amphiaraos s'y engloutira. Le lieu de sa disparition deviendra un lieu de culte.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
I miss Christmas at your house, making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth, warm from coffee under the mistletoe. Oh, cars and buses take me places, but I miss home. Trains and faces, smiles are fading, I just miss home. November's all you know now, December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same. November. Christmas at your house, watching Julie Andrews on the hill. I feel much better when you laugh. In the echo, life and time stand still.
chasing? Who am I chasing? Am I chasing home? November's all you know now. December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same.
Pierre Judet de la Combe parle d'Éthéocle et de Polynice, les frères maudits par leur père Œdipe.
Tout va se corser pour Éthéocle à la septième porte. Il avait dit pour rassurer les Thébains que c'est là qu'il se posterait, à la porte ultime. Or, les dieux ont voulu que Polynice se trouve lui aussi à cette porte. Les deux frères vont donc s'affronter, armes à la main, comme l'avait annoncé Œdipe dans ses malédictions. Le messager raconte à Éthéocle ce qu'il a vu. Un Polynice sûr de lui, mesuré, pas un fou furieux comme les cinq premiers chefs. Il porte sur son bouclier l'image sereine de la déesse Justice. Une inscription en or dit qu'elle rétablira Polynice dans ses droits et lui restituera le pouvoir sur la ville de ses pères. Polynice croit donc encore dans la force de la justice. Il pense qu'elle peut régler le différend avec son frère. Éthéocle comprend tout de suite que ce qui a lieu n'a rien à voir avec la justice, que ce n'est pas une querelle de droit. Ce qui arrive est la réalisation de la malédiction lancée par Œdipe. Les dieux approuvent cette malédiction, ils l'accomplissent.
Ô folle, frappée des dieux et des dieux grands d'horreur, ô toute de larmes, ma famille d'Œdipe. Malheur, les malédictions d'un père arrivent maintenant à leur fin.
La fin ? La mort des deux frères est inévitable. Éthéocle ne discute même pas, n'hésite pas une seconde. Après ce cri de lamentation, il se ressaisit et cherche seulement à être efficace.
Mais ce n'est pas le moment de pleurer ou de se plaindre, pour que naisse un gémissement plus dur encore à supporter.
Éthéocle prend quand même la peine de réfuter les prétentions de son frère. Justice, dit-il, ne peut pas être avec Polynice. Elle ne peut pas approuver qu'en son nom, qu'au nom du droit, on vienne avec une armée et qu'on ravage sa propre ville. La justice revendiquée par Polynice est contradictoire. Polynice prétend sur une ville que son armée prétend mettre à sac.
Je ne pense pas qu'au moment où il met à mal la terre paternelle, la justice se tienne à ses côtés et l'assiste. On dirait alors en toute justice que justice est contraire à son nom si elle s'unit à un homme dont la pensée ne recule devant rien.
Pour Éthéocle, il n'y a rien à discuter. Il faut exécuter la volonté malveillante du père qui les a maudits et se battre. Les dieux ne laissent pas d'échappatoire. Éthéocle demande qu'on lui apporte ses armes. Les femmes du cœur protestent. Elles refusent que leur roi commette un crime irréparable, un fratricide. Ce sang fraternel versé ne se lavera jamais. Elles demandent à Éthéocle de la prudence et surtout de ne pas aller contre la religion. Elle l'implore de faire une prière et un sacrifice aux dieux. Pour Éthéocle, c'est inutile.
Mais il semble déjà que nous n'intéressons pas les dieux. La grâce que nous leur faisons de mourir est ce qu'ils admirent. Pourquoi chercher encore les caresses d'un destin qui tue ?
Éthéocle prend ses armes et part affronter son frère Polynice à la septième porte de la ville. Il ne reviendra pas. Échille, dans sa pièce « Les Sept contre Thèbes », ne raconte pas la bataille. Ce qui l'intéresse est l'issue des combats. Thèbes a gagné. Les sept chefs ennemis sont morts, mais Éthéocle aussi, tué par son frère Polynice, dans un duel où ils se sont massacrés l'un l'autre. La ville est sauvée, mais la famille royale, la famille d'Œdipe, s'est autodétruite, s'est fait disparaître. Elle n'aurait jamais dû naître. On assiste alors à une chose très étrange. Quelque chose comme une réconciliation va avoir lieu. Le cœur des jeunes Thébaines est resté en scène. Les jeunes filles apprennent la mort des deux frères et se lamentent sur leur destin. Toute la famille est à plaindre.
Infortuné Jocaste qui les mit au monde, plus que toutes les femmes qu'on dit procréatrices. Faisant de son fils un époux, elle les mit au monde et ils finirent de cette façon. Mains meurtrières l'une de l'autre, issues d'une même semence. de même semence et de totale ruine dans une découpe sans amour, dispute délirante qui clôt la haine.
Quant aux deux frères ennemis, ils sont enfin réunis. Les deux cadavres sont apportés sur scène. Ils sont là, visibles et strictement égaux. Le démon qui les a opposés l'un à l'autre a fini son travail. Une même plainte peut s'adresser aux deux ennemis indifféremment, sans tenir compte de leurs différences.
Triste, vous qui avez fleuri la famille de tant de peines. À la fin, elles ont lancé le tri aigu de leurs cris de victoire, les malédictions, quand la famille vira vers la déroute où tout chavire. Il est debout, aux portes, le trophée de folie. Là où il se frappait, où, vainqueur de tous deux, le démon s'arrêta.
Les deux frères ennemis que tout semblait distinguer sont en fait pareils. Rendus identiques par la mort qu'ils se sont donnés. Rien ne les distingue plus. Le cœur, toujours en pleurs, s'adresse alternativement à l'un et à l'autre. Mais il est impossible de savoir quand il parle à Polynice et quand il parle à Étéocle.
Frappé, tu frappas.
Et toi, tu mourus en tueur.
De la lance, tu tuas.
Tu mourus de la lance.
Misérable fléau.
Misérable victime.
Allez, plainte.
Allez, larmes.
Tu es couché.
Ayant tué.
Ce chant de deuil finit sur une réconciliation funèbre. Les deux frères ennemis vont être enterrés ensemble dans la même tombe que leur père Œdipe. La querelle, la haine sont désormais effacées à jamais. La famille est réunie.
Ô triste vous, plus à la peine que tous.
Ô possédé des démons désastrés.
Ô vous, où nous mettrons-vous dans la terre?
Ô vous, là où il y a le plus d'honneur.
Ô souffrance couchée avec un père.
La pièce d'Eschyle finit par ces mots. Ô souffrance, couchée avec un père. Le père et les fils qui se sont tellement haïs sont finalement réunis en paix. Longtemps, je suis resté perplexe devant cette fin. Je me disais, bon, c'est une fin bien tragique, comme on peut s'y attendre. La catastrophe a fait son travail et a tout emporté. Il n'y a de réconciliation que dans la mort, qui égalise tout. Ce n'est pas gai, on reste en plein désastre, en plein deuil. C'est tragique, quoi, pleurons. Mais cette lecture était trop courte, myope. Plutôt convenu. Je m'en suis rendu compte un matin. Sur cette radio était interviewé Jean Hatzfeld, le grand reporter, grand écrivain, qui nous a appris tant de choses sur le génocide au Rwanda, quand pendant des mois, des Hutus massacraient des Tutsis par milliers. Jean Hatzfeld parlait des Hutus qui avaient aidé les Tutsis persécutés. Ces Hutus, c'est juste, avaient été massacrés à leur tour par les génocidaires. Où fallait-il les enterrer? Avec qui? Avec leur groupe d'origine, les Hutus? Ou avec les Tutsis qu'ils ont aidés au prix de leur vie. Jean Hatzfeld a posé la question à un rescapé du génocide. Il lui a répondu « Ce n'est pas à nous, c'est aux morts de décider. » Réponse qui peut sembler incompréhensible, mais qui est incroyablement profonde. La communauté des morts, ce n'est pas rien. Elle a ses droits, ses exigences, elle les impose. Elle peut faire ou non la réconciliation. Le partage d'une même tombe signifie qu'il y a accord entre les morts. Œdipe avait son mot à dire sur la tombe de ses fils. Vivant, il les a maudits, morts, il les accueille et partage leur peine.
Ô souffrance couchée avec un père.
En organisant un rituel commun pour les deux frères, en les déposant dans une tombe commune avec leur père, la cité montre qu'elle sait aller au-delà des querelles de droit, de légitimité, au-delà des actions de guerre. Une communauté est reconstituée par le rite, si les morts s'acceptent entre eux. Et malgré leurs immenses différences et leurs conflits. Ce sont des voix de femmes qui closent le drame. Ce sont elles qui réalisent la réconciliation funèbre des ennemis. Ces femmes sont exclues de la politique, des assemblées et des décisions, mais elles sont chargées par la cité du rituel des morts. Elles savent alors dire ce qui échappe à la politique, à savoir qu'au-delà de ces conflits, il y a le prix non mesurable, non quantifiable de chaque existence. La cité de Thèbes va-t-elle tenir sa promesse de réconciliation? Va-t-elle réellement surmonter par un rite funèbre commun l'opposition entre le frère qui voulait attaquer sa ville, Polynice, et celui qui pensait la sauver, Étéocle? Il est tentant pour une cité de distinguer entre le bon et le méchant, entre l'ami et l'ennemi, même dans la tombe. À Thèbes, le pouvoir politique va essayer de le faire. Il va refuser d'enterrer Polynice, le traître. Une femme va résister, la sœur de ses frères ennemis, Antigone, la rebelle. Jusqu'où peut-elle aller? Si vous le voulez, vous le saurez. quand nous raconterons son histoire.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.